Il est 21h à Gao et à Bamako, 21h à Monrovia et à Ouagadougou. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus, les manifestations se multiplient au Mali pour l'intégrité territoriale du pays. Ebola, l'OMS a sorti un nouveau bilan et à Monrovia, l'optimisme revient alors que les premiers militaires américains arrivent dans la capitale du Libéria.
Nous prions pour que les troupes américaines viennent et qu'elles soient en mesure d'aider nos sœurs et frères libériens, parce qu'Ebola tue beaucoup de gens.
Enfin, au Burkina Faso, le président Blaise Compaoré a ouvert des discussions avec l'opposition. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Un conseil de sécurité extraordinaire présidé par Barack Obama a adopté aujourd'hui une résolution contraignante pour endiguer le flot des djihadistes étrangers en Syrie et en Irak et contrer la menace qu'ils représentent pour leur pays d'origine. Ce texte adopté à l'unanimité impose aux États, sous peine de sanctions, d'empêcher leurs citoyens de s'enrôler dans des organisations extrémistes comme l'État islamique. Cette rare réunion au sommet était présidée par le chef de l'exécutif américain lui-même et rassemblait plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement, dont le président français François Hollande. Un groupe algérien lié à l'État islamique affirme avoir décapité un randonneur français enlevé en début de semaine. Les soldats du califat avaient menacé de tuer Hervé Gourdel, âgé de 55 ans, à cause de la participation de la France à la campagne militaire contre l'État islamique en Irak. Une vidéo publiée par le groupe ne montre pas la décapitation, mais un militant tenant une tête devant la caméra. Deux Américains et un Britannique ont été tués de la même façon par les djihadistes de l'État islamique. Selon des chercheurs américains, entre 500 000 et 1 400 000 personnes en Afrique de l'Ouest pourraient être infectées par le virus Ebola d'ici à janvier, à moins que l'épidémie ne soit sous contrôle. Et s'exprimant devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York aujourd'hui, le président américain a plaidé pour qu'un effort plus important soit engagé au niveau international afin d'éradiquer la plus grave épidémie du virus Ebola depuis son identification en 1976 qui sévit en Afrique de l'Ouest. Jacques Aristide.
Pour Barack Obama, le monde affronte aujourd'hui des défis croissants et il appartient à tous les gouvernements de les relever ensemble.
Alors que nous nous réunissons ici, les systèmes de santé publique en Afrique de l'Ouest sont en train d'être submergés par l'épidémie d'Ebola qui risque aussi de s'étendre rapidement au-delà des frontières.
L'intervention du président a toutefois été dominée par la lutte contre le terrorisme, Barack Obama appelant le monde à se joindre au combat contre les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie et réaffirmant sa volonté de le détruire. Il a demandé aux musulmans de rejeter avec force l'idéologie prônée par de tels groupes ultra-violents dont Al-Qaïda. Il faut mettre fin au cancer de l'extrémisme violent, a-t-il ajouté. À la tribune de l'ONU, le président Obama a également dénoncé l'agression de la Russie en Europe tout en tendant la main à Moscou, appelé à choisir le chemin de la diplomatie et de la paix dans la crise en Ukraine. Énumérant d'autres conflits en cours, Barack Obama a déploré une année terrible pour les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Notons que la coalition menée par les États-Unis a bombardé pour la seconde journée ce mercredi des positions de l'État islamique en Syrie, ciblant les moyens de transport des djihadistes. Selon le commandement central américain qui supervise les opérations militaires américaines au Moyen-Orient, un raid aérien a endommagé dans l'est de la Syrie 8 véhicules utilisés pour transporter l'équipement en Irak. Ce dernier bombardement est le 20e en Syrie depuis mardi, depuis que Washington et ses 5 alliés arabes ont commencé une campagne aérienne en attaquant des centres d'entraînement et de commandement de l'État islamique. L'Organisation internationale des migrations soutient les enquêtes dans 3 pays d'Europe sur la disparition en Méditerranée de près de 500 migrants qui ont quitté le port de Damiette en Égypte début septembre. Des enquêtes distinctes sont en cours en Italie, en Grèce et à Malte sur l'événement qui, selon des témoins, aurait été un sabordage délibéré d'une embarcation transportant des centaines de migrants venant du Soudan, d'Égypte, de Syrie et des territoires palestiniens. Seuls 11 survivants ont été signalés. Selon l'OIM, le total de pertes en vies humaines en Méditerranée depuis le début de l'année s'élève à 3072 contre 700 pour toute l'année 2013. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, ne partez pas, on retourne à Sahel Plus en remontant les dunes avec Claire Morin-Gibourg.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Au Mali, des organisations de la société civile disent non à la division et au fédéralisme du pays. Les manifestations se sont multipliées ces derniers temps dans le nord du pays, à Gao et à Tombouctou notamment, et elles ont atteint la capitale. Les précisions de notre correspondant, Kassim Traoré.
Après les marches des populations de Gao et Tombouctou, les organisations de la société civile malienne ne veulent plus rester les bras croisés. Yagare Baba Djakité, porte-parole de la plateforme des organisations de la société civile.
Mettant le Mali au-dessus de tout pour que notre nation puisse continuer d'exister sur l'intégralité de son territoire et d'y exercer toute sa souveraineté d'antan pour toujours.
Toutes les grandes organisations de la société civile malienne prennent part à cette initiative. Amadou Daouda Tekete, vice-président du Conseil national de la société civile.
On ne sera jamais d'accord pour que le Mali soit divisé. Pas de division, pas de l'indépendance à côté, pas d'autonomie, pas de fédéralisme. Le Mali est un indivisible. Ça, c'est l'appel que nous donnons à tous les Maliens. Il faut que la communauté internationale sache qu'il n'y a pas de demi-mesure. La société malienne ne veut pas une division.
En plus des organisations classiques, il y a les organisations confessionnelles du Mali. Pour elles, pas question de toucher à un centime du territoire malien. Abbé Edmond Amélé de l'Église catholique.
Partout où il est question du Mali, de l'unité du Mali, du respect de l'intégrité territoriale du Mali, de la paix au Mali et de l'unité entre les Maliens ainsi que de la laïcité, l'Église catholique apportera son soutien. Préserver le Mali de cette indépendance que nous voulons combattre.
Au cours de cette conférence de presse, le député de Menaka a pris la parole au nom des notabilités et des communautés des régions nord du Mali, Baja Ag Amatou.
Parce que la plateforme, nous l'avons créée justement pour contribuer à aider à la stabilité de notre pays, à la préservation de l'unité nationale du Mali, à la préservation de son intégrité territoriale, à la préservation aussi de sa forme républicaine. Si le peuple malien est un, il faut que les Maliens s'aiment entre eux.
Et pour boucler la boucle de cette conférence de presse, l'annonce la plus attendue a été faite par Ousmane Chérif Madani Aïdara, guide des leaders spirituels musulmans.
Je lance un appel pour tous les Maliens de sortir le jeudi, Inch'Allah, pour soutenir notre pays. Et puis, vraiment, on veut une Mali stable. On ne veut pas de séparation. C'est à cause de ça, on a un appel pour tous les Maliens de sortir le jeudi pour supporter.
Cette grande marche annoncée pour ce jeudi 25 septembre 2014 à partir de 16h sera simultanément organisée dans toutes les capitales régionales du Mali. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur La Voix de l'Amérique et sur le 102 FM à Bamako. Notre dossier est consacré à l'épidémie de virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Hier, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a publié un nouveau bilan et a demandé un renforcement des mesures de lutte contre le virus. Si rien n'est fait, avertit l'OMS, la maladie pourrait toucher 20 000 personnes d'ici à novembre, soit trois fois plus qu'à ce jour. Plus d'explications avec Jacques Aristide.
L'épidémie a déjà tué 2 811 personnes des 5 864 cas rapportés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, d'après le dernier bilan établi.
One of the key messages that we want to get across is that we are now in the third explosive phase of growth.
Nous sommes dans la troisième vague d'accroissement de l'épidémie, affirme Christopher Dye de l'OMS, et de prévenir que si rien ne vient freiner sa progression, ce ne seront plus des centaines de cas par semaine, mais des milliers qui surviendront. Pour lui, les moyens pour l'arrêter sont connus, mesures de contrôle et de prévention, protection précoce des malades et des soignants, et détection des personnes en contact avec quelqu'un d'infecté. Mais d'autres chiffres encore plus alarmants, dans un rapport publié aujourd'hui, les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, qui ont analysé les données du Libéria et de la Sierra Leone, affirment que le nombre de cas d'Ebola pourrait atteindre jusqu'à 1,4 million d'ici au 20 janvier prochain. Sur le plan de la recherche, l'ONG Wellcome Trust a annoncé ce mardi un don de 5,2 millions de dollars pour les essais des médicaments expérimentaux contre Ebola en Afrique de l'Ouest, de temps qu'il n'y a pas encore de vaccin homologué.
Ebola toujours, nous partons pour Monrovia, la capitale du Liberia. L'odeur de chlore est partout. La situation reste tendue, disent les résidents, mais il y a un sentiment croissant d'optimisme que l'épidémie d'Ebola peut être enrayée dans le pays. Cet optimisme est renforcé par l'arrivée du premier contingent militaire américain sur le terrain. Washington a en effet promis 3000 soldats pour aider à la logistique médicale. Reportage du service anglophone de la Voix de l'Amérique, interprété par Issia Kaba.
Il est environ midi à Monrovia. Jessie Toh est assise sur sa charrette en bois, sous un parapluie, tout en mangeant du riz au safran avec du poisson frais de l'océan tout proche. La jeune vendeuse de rue, mère de deux enfants, vend du dentifrice, du savon et des tissus à quelques dizaines de mètres du ministère des Finances. Jessie nous dit que les affaires ne vont pas bien ces jours-ci.
Eh bien, la vie à Monrovia est très difficile. Les gens de la rue ont des difficultés. Les affaires ne marchent pas. La plupart des ministères sont fermés. Pas de travail.
Cette jeune femme gagne environ 18 dollars par mois. Avant la crise de l'Ebola, son revenu était près de 4 fois plus. Autre problème, les écoles sont fermées. Donc ses enfants doivent rester à la maison. Ils n'ont rien à faire. 6 mois après la pire épidémie d'Ebola dans le monde, Jessie espère que les 3000 soldats américains peuvent apporter l'aide que le gouvernement libérien n'a pas pu fournir jusqu'à présent.
Nous prions pour que les troupes américaines viennent et qu'elles soient en mesure d'aider nos sœurs et frères libériens, parce qu'Ebola tue beaucoup de gens.
Beaucoup parmi ceux que la VOA a joints pour ce reportage partagent son optimisme. Entre autres choses, les États-Unis se sont engagés à fournir une aide de 175 millions de dollars et construire 17 nouveaux établissements de soins de santé d'une capacité de 100 lits chacun dans la région. Les Américains vont aussi former jusqu'à 500 agents de santé par semaine au Liberia. Plus de 100 militaires américains doivent être en Afrique de l'Ouest d'ici la fin de cette semaine et d'autres vont suivre dans les prochains jours. La présidente Ellen Johnson Sirleaf qualifie cette assistance de moment important dans la lutte contre le virus Ebola. Elle a promis qu'elle ne se reposera pas jusqu'à ce que la maladie soit éradiquée. Mais pour Matthew Sandiki, un travailleur communautaire de 49 ans, l'aide américaine n'est qu'un point de départ. Nous demandons également à d'autres pays, l'Allemagne par exemple, de se joindre à l'Amérique pour nous aider à combattre ce virus Ebola. Parce que nous ne pouvons pas le faire seuls. Notre système de santé est totalement détruit. Après l'annonce faite par le président Obama sur l'envoi de troupes à vocation humanitaire au Liberia, le Conseil de sécurité de l'ONU a lancé à toutes les nations un appel à fournir une assistance, disant qu'Ebola est une menace à la sécurité internationale. L'Organisation des Nations Unies est en train de construire un nouveau centre de transit pour recevoir les cargaisons d'équipements dont le Liberia a besoin pour contenir la crise.
Au Burkina Faso, le président Blaise Compaoré a reçu hier au palais présidentiel la majorité et l'opposition pour les exhorter à entamer des discussions sur la question d'un référendum constitutionnel qui lui permettrait de briguer un autre mandat en 2015. La majorité veut faire sauter le verrou de l'article 37 de la Constitution qui empêche le président Compaoré, au pouvoir depuis 27 ans, de briguer un autre mandat, alors que l'opposition s'est mobilisée pour préserver cet article. Pour une réaction aux discussions d'hier à Ouagadougou, Timothée Donangmaï a joint à Ouagadougou Augustin Loada du Centre pour la gouvernance démocratique.
A priori, c'est une initiative qui est la bienvenue parce qu'elle contribue à la décrispation des rapports politiques. Mais il ne faut pas se faire d'illusion. Les positions des uns et des autres ont été réaffirmées. L'opposition politique a réaffirmé sa position, en tout cas, c'est-à-dire non au Sénat et non à la modification de l'article 37 de la Constitution. Je crois savoir que la majorité, le Front républicain, ont fait de même. Alors, il faut reconnaître que si, a priori, le dialogue démocratique est une bonne chose, pour le renforcement de la démocratie. Il ne faut pas aussi oublier le bilan du régime en place en matière de dialogue politique, parce que toutes les initiatives qui ont été entreprises ces dernières années ont plus ou moins été perçues par l'opposition comme des stratagèmes, parce qu'on observe que lorsque le pays est en situation de crise, il y a des cadres de dialogue qui sont créés, mais qui n'aboutissent pas à des recommandations consensuelles, en tout cas à des solutions durables aux situations de crise, si bien qu'on a l'impression de déjà-vu.
Qu'en est-il du principe d'un référendum qui permettrait aux Burkinabés de se prononcer sur la question ?
C'est justement là le problème, c'est-à-dire que la majorité tend à présenter le référendum comme une solution à une situation de crise, alors que c'est le référendum qui est le problème, dans la mesure où il apparaît un peu comme une stratégie de manipulation des règles du jeu démocratique. Vous savez très bien que la limitation du nombre de mandats présidentiels au Burkina Faso a une histoire qui remonte depuis la 2e, 3e République, la 4e République, avec les modifications incessantes. Donc ce n'est pas la première fois que la question se pose dans notre pays. C'est pour cela que la question du référendum a été perçue comme étant problématique et non comme étant une solution, parce que effectivement on a l'impression que on est en face d'un pouvoir qui arrive au bout du rouleau et qui sort le référendum comme je dirais une solution au problème qui est celui du refus de l'alternance démocratique au Burkina Faso.
Donc selon vous, le Burkina est encore loin du bout du tunnel?
Quand je regarde par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années de cela, moi, ça me laisse perplexe parce que, bon, on sait très bien que le président n'est pas dans un état d'esprit de quitter le pouvoir. La majorité qui le soutient ne cesse de réaffirmer sa position, à savoir déverrouiller l'article 37 de la Constitution. Et en face de l'opposition aussi, on ne tient pas cette fois-ci à se laisser distancer. Et donc, à mon avis, il faut être très prudent par rapport aux résultats de ce dialogue-là. D'autant plus que le président donne l'impression qu'il pourrait être un médiateur dans cette situation de crise, alors que c'est lui l'enjeu, la source du problème.
Augustin Loada du Centre pour la gouvernance démocratique à Ouagadougou. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Joselle Morissin. À la technique, Michael Dubinsky. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec la Kenyane Mutoni, aussi connue comme la Drummer Queen, et le morceau Feeling It. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique, ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous. This is me saying that I'm hard to get. It's in my blood running blue through my veins royal. Media tell them how I do, super loyal. And to be clear, I don't deal with potential. Wanna step to me, better have credentials. Like so special, so special, so special. Lyrically is a weapon of mass violence. Operating with a 007 license. Relegating all your chitter chatter jabber nonsense. Now let's be clear on who they really fear. Who rocks a party hard from the front to the rear. It's the drama mama on the cloud banger. Hang you out to dry like clothes on a hanger. Ati help me ingia kwenye booth na kagol kwenye tooth. Na today makina roof. Ati ndiyo wakusuth. Baka unazima light. Eti ndiyo moody right. Kamalawi eti ndiyo uwe flight. Yamani no wonder all your songs sound weak. You wouldn't sound better if we all gave a week to you. True step and better things to do. Step aside sound real army coming through. To all my singers in the Bafu choir, all my people strumming on the air guitar wire. Chair, table, dashboard, drummers on fire. Making trumpet harmonies on your hair dryer. It's a felony.